Histoire de la Réformation du XVIe siècle, livre 4, chapitre 2. Diet à Augsbourg, l'empereur au pape, l'électeur à Rovère, Luther cité à Rome, paix de Luther, intercession de l'université, bref du pape, indignation de Luther, le pape à l'électeur. Il en était besoin, car les grands commençaient à s'émouvoir et l'Empire et l'Église unissaient déjà leurs efforts pour écarter ce moine importun. Si un prince fort et courageux eût occupé alors le trône impérial, il eût pu profiter de ces agitations religieuses et appuyer sur la parole de Dieu et sur la nation, donner un nouvel élan à l'ancienne opposition contre la papauté. Mais Maximilien était trop âgé, et il était décidé d'ailleurs à tous les sacrifices pour atteindre ce qu'il regardait comme le but de sa vie, la grandeur de sa maison, et par conséquent, l'élévation de son petit-fils. L'empereur Maximilien tenait alors une diète impériale à Augsbourg. 6 électeurs s'étaient rendus en personne à son appel. Tous les États germaniques y étaient représentés. Les rois de France, de Hongrie et de Pologne y avaient leurs ambassadeurs. Ces princes et ses envoyés déployaient tous une grande magnificence. La guerre contre les Turcs était l'un des sujets pour lesquels la diète était assemblée. Le légat de Léon X y exhorta vivement à la diète. Les États, instruits par le mauvais usage qu'on avait fait auparavant de leurs contributions et sagement conseillés par l'électeur Frédéric, se contentèrent de déclarer qu'ils réfléchiraient à la chose et produisir en même temps de nouveaux griefs contre Rome. Un discours latin publié par la diète signalait courageusement aux princes allemands le véritable danger. « Vous voulez, disait l'auteur, mettre le Turc en fuite. C'est très bien, mais je crains fort que vous ne vous trompiez sur sa personne. C'est en Italie et non en Asie que vous devez le chercher. » Une autre affaire non moins importante devait occuper la diète. Maximilien désirait faire proclamer roi des Romains et son successeur dans la dignité impériale, son petit-fils Charles, déjà roi d'Espagne et de Naples. Le pape connaissait trop bien ses intérêts pour désirer de voir le trône impérial occupé par un prince dont la puissance en Italie pouvait lui devenir redoutable. L'empereur pensait avoir déjà gagné en sa faveur la plupart des électeurs et des États, mais il trouva une énergique opposition chez Frédéric. En vain le sollicita-t-il, en vain les ministres et les meilleurs amis de l'électeur joignirent-ils leurs prières à celles de l'empereur. Il fut inébranlable et montra en cette occasion, ainsi qu'on l'a dit, qu'il était d'une fermeté d'âme à ne se départir jamais d'une résolution quand il en avait une fois reconnu la justice. Le dessein de l'empereur échoua. Dès lors, ce prince chercha à obtenir la bienveillance du pape pour le rendre favorable à ses plans et pour lui donner une preuve particulière de son dévouement, il lui écrivit le 5 août la lettre suivante. « Très saint père, nous avons appris, il y a quelques jours, qu'un frère de l'ordre des Augustins nommé Martin Luther s'est mis à soutenir diverses propositions sur le commerce des indulgences, ce qui nous déplaît d'autant plus que le dit frère trouve beaucoup de protecteurs, parmi lesquels sont des personnages puissants. Si votre sainteté et les très dignes pères de l'Église, les cardinaux, n'emploient pas bientôt leur autorité pour mettre fin à ces scandales, non seulement ces pernicieux docteurs séduiront les gens simples, mais ils entraîneront de grands princes dans leur ruine. Nous veillerons à ce que tout ce que votre sainteté arrêtera à cet égard, pour la gloire du Dieu Tout-Puissant, soit observé par tous dans notre empire. » Cette lettre a dû être écrite à la suite de quelques discussions un peu vives entre Maximilien et Frédéric. Le même jour, l'électeur écrivit à Raphaël de Rovère. Il avait sans doute appris que l'empereur s'adressait au pontife romain et, pour parer le coup, il se mettait lui-même en communication avec Rome. « Je n'aurai jamais d'autre volonté, dit-il, que de me montrer soumis à l'Église universelle. Aussi n'ai-je jamais défendu les écrits et les sermons du docteur Martin Luther. J'apprends d'ailleurs qu'il s'est toujours offert apparaître avec un sauf-conduit devant des juges impartiaux, savants et chrétiens, afin de défendre sa doctrine et de se soumettre dans le cas où on le convaincrait par l'Écriture elle-même. » Léon X, qui jusqu'à cette heure avait laissé l'affaire aller son train, réveillé par les cris des théologiens et des moines, institua à Rome une cour ecclésiastique chargée de juger Luther et près de laquelle Sylvestre Prierio, le grand ennemi du réformateur, était à la fois accusateur et juge. La cause fut bientôt instruite et la cour somma Luther de comparaître en personne devant elle dans un délai de 60 jours. Luther attendait tranquillement à Wittenberg le bon effet que la lettre pleine de soumission adressée par lui au pape devait, à ce qu'il pensait, produire lorsque le 7 août, 2 jours seulement après le départ des lettres de Maximilien et de Frédéric, on lui remit la citation du tribunal romain. « Au moment où j'attendais la bénédiction, dit-il, je vis fondre sur moi la foudre. J'étais la brebis qui trouble l'eau du loup. Tetzel échappa, et moi je devais me laisser manger. » Cette citation jeta Wittenberg dans la consternation, car quelque parti que prit Luther, il ne pouvait échapper au danger. S'il se rendait à Rome, il devait y devenir la victime de ses ennemis. S'il refusait d'y aller, il serait, selon l'usage, condamné par contumace, sans pouvoir échapper, car on savait que le légat avait reçu du pape l'ordre de tout faire pour irriter l'empereur et les princes allemands contre lui. Ses amis étaient concernés. Le docteur de la vérité ira-t-il porter sa vie à cette grande cité, enivrée du sang des saints et du sang des martyrs de Jésus? Suffira-t-il qu'une tête s'élève du sein de la chrétienté asservie pour qu'elle tombe? Cet homme, que Dieu paraît avoir formé pour résister à une puissance à laquelle jusqu'à présent rien n'a pu résister, sera-t-il aussi renversé? Luther lui-même ne voyait que l'électeur qui put le sauver, mais il préférait mourir plutôt que de compromettre son prince. Ses amis tombèrent enfin d'accord sur un expédient qui n'exposerait pas Frédéric. Qu'il refuse à Luther un sauf-conduit, et celui-ci aura une cause légitime pour ne pas comparaître à Rome. Le 8 août, Luther écrivit à Spalatin pour lui demander que l'électeur employât son influence pour le faire citer en Allemagne. « Voyez, écrivit-il aussi à Stupitz, de quelles embûches on use pour s'approcher de moi, et comment je suis entouré d'épines. Mais Christ vit et règne, hier, aujourd'hui et éternellement. Ma conscience m'assure que c'est la vérité que j'ai enseignée, bien qu'elle devienne plus odieuse encore quand c'est moi qui l'enseigne. L'Église est le ventre de Rebecca. Il faut que les enfants s'entrepoussent même jusqu'à mettre la mère en danger. Au reste, demandez au Seigneur que je n'ai pas trop de joie dans cette épreuve, que Dieu ne leur impute pas ce mal. » Les amis de Luther ne se bornèrent pas à des consultations et à des plaintes. Spalatin écrivit de la part de l'électeur à Rainer, secrétaire de l'empereur. « Le docteur Martin consent volontiers à avoir pour juge toutes les universités d'Allemagne, excepté celles d'Erfurt, de Leipzig et de Francfort sur l'Oder, qui se sont rendues suspectes. Il lui est impossible de paraître à Rome en personne. » L'université de Wittenberg écrivit au pape lui-même une lettre d'intercession. « La faiblesse de son corps, disait-elle en parlant de Luther, et les dangers du voyage, lui rendent difficile et même impossible d'obéir à l'ordre de votre sainteté. Sa peine et ses prières nous portent à avoir compassion de lui. Nous vous prions donc, très saint Père, comme des fils obéissants, de vouloir bien le tenir pour un homme qui n'a jamais été entaché de doctrine opposée à l'opinion de l'Église romaine. » L'université, dans sa sollicitude, s'adressa le même jour à Charles de Miltitz, gentilhomme saxon et camérier du pape, très aimé de Léon X. Elle rendit à Luther dans cette lettre un témoignage plus fort encore que celui qu'elle avait osé insérer dans la première. « Le digne père Martin Luther, Augustin, disait-elle, est le plus noble et le plus honorable membre de notre université. Depuis plusieurs années, nous avons vu et connu son habileté, son savoir, sa haute intelligence dans les arts et dans les lettres, ses mœurs irréprochables et sa conduite toute chrétienne. Cette active charité de tous ceux qui entouraient Luther est son plus bel éloge. » Tandis qu'on attendait avec anxiété l'issue de cette affaire, elle se termina plus facilement qu'on eût pu l'espérer. Le légat de Viau, humilié de n'avoir pas réussi dans la commission qu'il avait reçue de préparer une guerre générale contre les Turcs, désirait relever et illustrer son ambassade en Allemagne par quelque autre acte éclatant. Il pensait que s'il éteignait l'hérésie, il reparaîtrait dans Rome avec gloire. Il demanda donc au pape qu'on lui remît cette affaire. Léon, de son côté, savait bon gré à Frédéric de s'être opposé si fortement à l'élection du jeune Charles. Il sentait qu'il pourrait encore avoir besoin de son secours. Sans parler davantage de la citation, il chargea son légat par un bref daté du 23 août d'examiner l'affaire en Allemagne. Le pape ne perdait rien à cette manière de procéder, et même si l'on pouvait amener Luther à une rétractation, on évitait le bruit et le scandale que sa comparution à Rome eût occasionné. « Nous vous chargeons, disait-il, de faire comparaître personnellement devant vous, de poursuivre et de contraindre sans aucun retard, et aussitôt que vous aurez reçu cet écrit de nous, le dit Luther, qui a déjà été déclaré hérétique par notre cher frère Jérôme, évêque d'Asculan. » Puis le pape prescrivait contre Luther les mesures les plus sévères. Invoquez à cet effet le bras et le secours de notre très cher fils en Christ, Maximilien, et des autres princes de l'Allemagne, de toutes les communautés, universités, potentats, ecclésiastiques ou séculiers. Et si vous l'atteignez, faites-le garder sûrement, afin qu'il soit amené devant nous. On voit que cette indulgente concession du pape n'était guère qu'une voie plus sûre d'entraîner Luther à Rome. Viennent ensuite les mesures de douceur. S'il rentre en lui-même et demande grâce pour un tel forfait, de lui-même et sans y être invité, nous vous donnons le pouvoir de le recevoir dans l'unité de la Sainte Mère l'Église. Le pape en revient bientôt aux malédictions. S'il persiste dans son opiniâtreté et que vous ne puissiez vous rendre maître de lui, nous vous donnons le pouvoir de le proscrire dans tous les lieux de l'Allemagne, de bannir, de maudire, d'excommuniquer tous ceux qui lui sont attachés et d'ordonner à tous les chrétiens de fuir leur présence. Et afin, continue le pape, que cette contagion soit d'autant plus facilement extirpée, vous excommunierez tous les prélats, ordres religieux, universités, communautés, comtes, ducs et potentats, excepté l'empereur Maximilien, qui ne saisirait pas le dit Martin Luther et ses adhérents et ne vous les enverrait pas sous due et bonne garde. Et si, ce que Dieu préserve, les dix princes, communautés, universités et potentats ou quelqu'un à eux appartenant offrait de quelque manière un asile aux dix Martins et à ses adhérents, lui donnait publiquement ou en secret par eux ou par d'autres secours et conseils, nous mettons en interdit ces princes, communautés, universités et potentats avec leurs villes, bourgs, campagnes et villages, aussi bien que les villes, bourgs, campagnes et villages où le dit Martin pourrait s'enfuir aussi longtemps qu'il y demeurera et 3 jours après qu'il les aura quittés. Cette chair audacieuse qui prétend représenter sur la terre celui qui a dit « Dieu n'a point envoyé son Fils dans le monde pour condamner le monde, mais afin que le monde soit sauvé par lui », continue ses anathèmes. Et après avoir prononcé les peines contre les ecclésiastiques, elle dit « Quant à ceux qui regardent les laïcs, s'ils n'obéissent pas aussitôt, sans aucun retard et aucune opposition à vos ordres, nous les déclarons infâmes, à l'exception du très digne empereur, inhabiles à s'acquitter de toute action convenable, privés de la sépulture des chrétiens et dépouillés de tout fief qu'ils les tiennent soit du siège apostolique, soit de quelque seigneur que ce puisse être. » Tel était le sort qui attendait Luther. Le monarque de Rome a tout conjuré pour sa perte. Il a tout remué jusqu'à la paix des tombeaux. Sa ruine semble assurée. Comment échappera-t-il à cette immense conjuration? Mais Rome s'était trompée. Le mouvement suscité par l'Esprit de Dieu ne pouvait être dompté par les décrets de sa chancellerie. On n'avait pas même gardé les apparences d'une enquête juste et impartiale. Luther avait été déclaré hérétique non seulement avant d'avoir été entendu, mais encore bien avant la fin du temps qui lui avait été donné pour comparaître. Les passions, et nulle part elles ne se montrent plus fortes que dans les discussions religieuses, font passer par-dessus toutes les formes de la justice. Ce n'est pas seulement dans l'Église romaine, c'est dans les églises protestantes qui se sont détournées de l'Évangile, c'est partout où n'est pas la vérité que l'on retrouve à son égard de si étranges procédés. Tout est bon contre l'Évangile. On voit souvent des hommes qui, dans tout autre cas, se feraient scrupule de commettre la moindre injustice, ne pas craindre de fouler aux pieds toutes les règles et tous les droits dès qu'il s'agit du christianisme et du témoignage qu'on lui rend. Lorsque, plus tard, Luther eut connaissance de ce bref, il en exprima son indignation. « Voici, dit-il, le plus remarquable de l'affaire. Le bref a été donné le 23 août, et moi j'ai été cité le 7 août. » En sorte qu'entre la citation et le bref, il s'est écoulé 16 jours. Or, faites le compte, et vous trouverez que Monseigneur Jérôme, évêque d'Asculan, a procédé contre moi, a prononcé le jugement, m'a condamné et déclaré hérétique avant que la citation me fût parvenue ou tout au plus 16 jours après qu'on me l'avait remise. Maintenant, je le demande, où sont donc les 60 jours qui me sont accordés dans la citation ? Ils ont commencé le 7 août, ils devaient finir le 7 octobre. Est-ce là le style et la mode de la cour de Rome, qu'en un même jour elle cite, exhorte, accuse, juge, condamne et déclare condamné un homme qui est si éloigné de Rome et qui ne sait rien de toutes ces choses ? Que répondent-ils à tout cela ? Sans doute qu'ils ont oublié de se purger le cerveau avec de l'hellebore avant de mettre en œuvre de tels mensonges. Mais en même temps que Rome déposait en cachette ses foudres dans les mains de son légat, elle cherchait par de douces et flatteuses paroles à détacher de la cause de Luther le prince dont elle redoutait le plus le pouvoir. Le même jour, 23 août 1518, le pape écrivait à l'électeur de Saxe. Il avait recours aux arts de cette vieille politique que nous avons déjà signalée, et il essayait de flatter l'amour-propre du prince. « Cher fils, disait le pontife de Rome, quand nous pensons à votre noble et louable race, à vous qui en êtes le chef et l'ornement, quand nous nous rappelons comment vous et vos ancêtres avez toujours désiré maintenir la foi chrétienne, l'honneur et la dignité du Saint-Siège, nous ne pouvons croire qu'un homme qui abandonne la foi puisse s'appuyer sur la faveur de votre Altesse et lâcher hardiment la bride à sa méchanceté. Cependant, il nous est rapporté de toutes parts qu'un certain frère Martin Luther, ermite de l'ordre de Saint-Augustin, a oublié, comme enfant de malice et contempteur de Dieu, son habit et son ordre, qui consistent dans l'humilité et l'obéissance, et qu'il se vante de ne craindre ni l'autorité ni la punition d'aucun homme, assuré qu'il est de votre faveur et de votre protection. Mais nous savons qu'il se trompe. Nous avons trouvé bon d'écrire à votre Altesse et de vous exhorter, selon le Seigneur, à veiller à l'honneur du nom d'un prince aussi chrétien que vous, à vous défendre de ses calomnies, vous l'ornement, la gloire et la bonne odeur de votre noble race, et à vous garder non seulement d'une faute aussi grave que celle qu'on vous impute, mais encore du soupçon même que la hardiesse insensée de ce frère tend à faire placer sur vous. » Léon X annonçait en même temps à Frédéric qu'il avait chargé le cardinal de Saint-Sixte d'examiner la chose et il lui ordonnait de remettre Luther entre les mains du légat. « De peur, ajoutait-il, en revenant encore à son argument favori, que des gens pieux de notre temps ou des temps futurs ne puissent un jour se lamenter et dire « La plus pernicieuse hérésie dont ait été affligée l'Église de Dieu s'est élevée par le secours et la faveur de cette haute et louable maison. » Ainsi Rome avait pris toutes ses mesures. D'une main, elle faisait respirer le parfum toujours si enivrant de la louange, et de l'autre, elle tenait cachées ses vengeances et ses terreurs. Toutes les puissances de la terre, empereurs, papes, princes et légats, commençaient à s'émouvoir contre cet humble frère d'Erfurt dont nous avons suivi les combats intérieurs. Les rois de la terre se trouvent en personne, et les princes consultent ensemble contre le Seigneur et contre son oint. Psaume 2, verset 2. Livre 4, chapitre 3. L'armurier Schwarzed, sa femme, Philippe, son génie, ses études, la Bible, appel à Wittenberg, départ et voyage de Mélenchon, Leipzig, mécompte, joie de Luther, parallèle, révolution dans l'enseignement, étude du grec. Cette lettre et ce bref n'étaient point arrivés en Allemagne et Luther était encore dans la crainte de se voir obligé de comparaître à Rome lorsqu'un heureux événement vint consoler son cœur. Il lui fallait un ami dans le sein duquel il put verser ses peines et dont l'amour fidèle le consola à l'heure de l'abattement. Dieu lui fit trouver tout cela dans Mélenchon. Georges Schwarzerd était un habile maître armurier de Bretten, petite ville du Palatinat. Le 14 février 1497, il lui naquit un fils qui fut nommé Philippe et qui s'illustra plus tard sous le nom de Mélenchon. Bien vu des princes palatins, de ceux de Bavière et de Saxe, Georges était doué de la plus parfaite droiture. Souvent, il refusait des acheteurs le prix qu'il lui offrait et s'il apprenait qu'ils étaient pauvres, il les obligeait à reprendre leur argent. Il se levait habituellement à minuit et faisait alors à genoux sa prière. S'il lui arrivait de voir venir le matin sans l'avoir faite, il était mécontent de soi tout le jour. Barbara, femme de Schwarzerd, était fille d'un magistrat honorable nommé Jean Rother. Elle était d'un caractère tendre, un peu portée à la superstition, du reste pleine de sagesse et de prudence. C'est d'elle que sont ces vieilles rimes allemandes bien connues « Faire aumône n'appauvrit pas, être au temple n'empêche pas, graisser le char n'arrête pas, bien mal acquis ne produit pas, livre de Dieu ne trompe pas ». Et ces autres rimes « Ceux qui veulent plus dépenser que leur champ ne peut rendre, devront finir par se ruiner, plus d'un se fera pendre. » Le jeune Philippe n'avait pas 11 ans lorsque son père mourut. 2 jours avant d'expirer, Georges fit venir son fils près de son lit de mort et l'exhorta à avoir toujours présente la pensée de Dieu. « Je prévois, dit l'armurier mourant, que de terribles tempêtes viendront ébranler le monde. J'ai vu de grandes choses, mais de plus grandes se préparent. Que Dieu te conduise et te dirige. » Après que Philippe eut reçu la bénédiction paternelle, on l'envoya à Spire pour qu'il ne fût pas témoin de la mort de son père. Il s'éloigna tout en larmes. L'aïeul du jeune garçon, le digne bailli Rother, qui lui-même avait un fils, tint lieu de père à Philippe et le prit dans sa maison avec Georges, son frère. Peu de temps après, il donna pour précepteur aux 3 jeunes garçons Jean Ungarus, homme excellent, qui plus tard et jusque dans l'âge le plus avancé, annonça l'Évangile avec une grande force. Il ne passait rien au jeune homme, il le punissait pour chaque faute, mais avec sagesse. « C'est ainsi, dit Mélenchon en 1554, qu'il a fait de moi un grand mérien. Il m'aimait comme un fils, je l'aimais comme un père, et nous nous rencontrerons, je l'espère, dans la vie éternelle. » Philippe se distingua par l'excellence de son esprit, par sa facilité à apprendre et à exposer ce qu'il avait appris. Il ne pouvait demeurer dans l'oisiveté et il cherchait toujours quelqu'un avec qui il pût discuter sur ce qu'il avait entendu. Il arrivait souvent que des étrangers instruits passaient par Bretagne et visitaient Rother. Aussitôt, le petit-fils du bailli les abordait, entrait en conversation avec eux et les pressait tellement dans la discussion que les auditeurs en étaient dans l'admiration. À la force du génie, il joignait une grande douceur, et il se conciliait ainsi la faveur de tous. Il bégayait, mais comme l'illustre orateur des Grecs, il s'appliqua avec tant de soin à se corriger de ce défaut que plus tard on n'en aperçut plus aucune trace. Son grand-père étant mort, le jeune Philippe fut envoyé avec son frère et son jeune oncle Jean à l'école de Pforzheim. Ces jeunes garçons demeuraient chez une de leurs parentes, sœur du fameux Röchlin. Avide de connaissances, Philippe fit, sous la conduite de Georges Simmler, de rapides progrès dans les sciences et surtout dans l'étude de la langue grecque, pour laquelle il avait une véritable passion. Röchlin venait souvent à Pforzheim. Il fit chez sa sœur la connaissance de ses jeunes pensionnaires et il fut bientôt frappé des réponses de Philippe. Il lui donna une grammaire grecque et une Bible. Ces 2 livres devaient faire l'étude de toute sa vie. Lorsque Röchlin revint de son second voyage en Italie, son jeune parent, âgé de 12 ans, fêta le jour de son arrivée en jouant devant lui, avec quelques amis, une comédie latine qu'il avait lui-même composée. Röchlin, ravi du talent du jeune homme, l'embrassa tendrement, l'appela son fils bien-aimé et lui donna en riant le chapeau rouge qu'il avait reçu lorsqu'il avait été fait docteur. Ce fut alors que Röchlin changea son nom de Schwarzerd en celui de Mélenchon. Ces 2 mots signifient « terre noire », l'un en allemand et l'autre en grec. La plupart des savants du temps traduisaient ainsi leur nom en grec ou en latin. Mélenchon, à 12 ans, se rendit à l'université de Heidelberg. Ce fut là qu'il commença à étancher sa soif de science qui le consumait. Il fut reçu bachelier à 14 ans. En 1512, Röchlin l'appela à Tübingen, où un grand nombre de savants distingués se trouvaient réunis. Il fréquentait à la fois les leçons des théologiens, celles des médecins et celles des jurisconsultes. Il n'y avait aucune connaissance qu'il ne crût devoir rechercher. Ce n'était pas la louange qu'il poursuivait, mais la possession et les fruits de la science. L'Écriture sainte l'occupait surtout. Ceux qui fréquentaient l'église de Tübingen avaient remarqué qu'il avait souvent en main un livre dont il s'occupait entre les services. Ce volume inconnu paraissait plus grand que les manuels de prière et l'on répandit le bruit que Philippe lisait alors des ouvrages profanes. Mais il se trouva que le livre objet de leurs soupçons était un exemplaire des Saintes Écritures imprimé peu auparavant à Bâle par Jean Frobenius. Il continua toute sa vie cette lecture avec l'application la plus assidue. Toujours il avait sur lui ce volume précieux et il le portait à toutes les assemblées publiques auxquelles il était appelé. Rejetant les vains systèmes des scolastiques, il s'attachait à la simple parole de l'Évangile. « J'ai de Mélenchon, écrivait alors Érasme à Eucolampade, les sentiments les plus distingués et des espérances magnifiques. Que Christ fasse seulement que ce jeune homme nous survive longtemps, il éclipsera entièrement Érasme. » Néanmoins, Mélenchon partageait les erreurs de son siècle. « Je frémis, dit-il à une époque avancée de sa vie, quand je pense à l'honneur que je rendais au statut, lorsque je me trouvais encore dans la papauté. » En 1514, il fut fait docteur en philosophie, et il commença alors à enseigner, et il avait 17 ans. La grâce, l'attrait qu'il savait donner à ses enseignements faisait le plus frappant contraste avec la méthode dépourvue de goût que les docteurs et surtout les moines avaient jusqu'alors suivie. Il prit une vive part au combat dans lequel Rochelin se trouvait engagé avec les obscurants de son siècle. D'une conversation agréable, demeure douce et élégante, aimé de tous ceux qu'il connaissait, il jouit bientôt dans le monde savant d'une grande autorité et d'une solide réputation. Ce fut alors que l'électeur Frédéric conçut l'idée d'appeler un savant distingué comme professeur des langues anciennes à son université de Wittenberg. Il s'adressa à Rochelin, qui lui indiqua Mélenchon. Frédéric comprit tout l'éclat que ce jeune helléniste répandrait sur une institution qui lui était si chère. Rochelin, ravi de voir un si beau champ s'ouvrir pour son jeune ami, lui écrivit ces paroles de l'Éternel à Abraham. « Sors de ton pays et d'avec ta parenté et de la maison de ton père, et je rendrai ton nom grand et tu seras béni. » « Oui, continue le vieillard, j'espère qu'il en sera ainsi de toi, mon cher Philippe, mon œuvre et ma consolation. » Mélenchon reconnut dans cette vocation un appel de Dieu. À son départ, l'université fut dans la douleur. Il y avait pourtant des jaloux et des ennemis. Il quitta sa patrie en s'écriant « Que la volonté du Seigneur s'accomplisse !» Il avait alors 21 ans. Mélenchon fit le voyage à cheval dans la compagnie de quelques marchands saxons, comme on se joint à une caravane dans le désert, car, dit Rochelin, il ne connaissait ni les lieux ni les routes. Il présenta ses hommes à l'électeur qui se trouvait à Augsbourg. À Nuremberg, il vit l'excellent Pikeimer qu'il connaissait déjà. À Leipzig, il se lia avec le savant helléniste Mosellanus. L'université donna dans cette dernière ville un festin à son honneur. C'était un repas vraiment académique. Les plats se succédaient en grand nombre, et à chaque plat nouveau, l'un des professeurs se levait et adressait à Mélenchon un discours latin préparé d'avance. Celui-ci improvisait aussitôt une réponse. À la fin, lassé de tant d'éloquence, « Homme très illustre, leur dit-il, permettez-moi de répondre une fois pour toutes à vos harangues, car n'étant point préparé, je ne saurais mettre dans mes réponses autant de variété que vous dans vos allocutions. » Dès lors, les plats arrivèrent sans l'accompagnement d'un discours. Le jeune parent de Rochelin arriva à Wittenberg le 25 août 1518, 2 jours après que Léon X eut signé le bref adressé à Cajetan et la lettre à l'électeur. Les professeurs de Wittenberg ne reçurent pas Mélenchon avec autant de faveur que l'avaient fait ceux de Leipzig. La première impression qu'il produisit sur eux ne répondit pas à leur attente. Ils virent un jeune homme qui semblait plus jeune encore que son âge, d'une stature peu apparente, d'un air faible et timide. Est-ce là cet illustre docteur que les plus grands hommes du temps, Érasme et Rochelin, élèvent si haut? Ni Luther, dont il fit d'abord la connaissance, ni ses collègues ne conçurent de grandes espérances en voyant sa jeunesse, son embarras et ses manières. 4 jours après son arrivée, le 29 août, il prononça son discours d'inauguration. Toute l'université était assemblée. Le jeune garçon, comme l'appelle Luther, parla avec une latinité si élégante et montra tant de science, un esprit si cultivé, un jugement si sain que tous ses auditeurs furent dans l'admiration. Le discours terminé, tous s'empressèrent de le féliciter, mais personne ne ressentait plus de joie que Luther. Il se hâta de communiquer à ses amis les sentiments qui remplissaient son cœur. « Mélenchon, écrivit-il à Spalatin le 31 août, a prononcé 4 jours après son arrivée une si belle et si savante harangue que tous l'ont écoutée avec approbation et avec étonnement. Nous sommes bientôt revenus des préjugés qu'avait fait naître sa stature et sa personne. Nous louons et nous admirons ses paroles. Nous rendrons grâce au prince et à vous pour le service que vous nous avez rendu. Je ne demande d'autre maître de grec, mais je crains que son corps délicat ne puisse supporter nos aliments et que nous ne le gardions pas longtemps à cause de la modicité de son traitement. J'apprends que les gens de Leipzig se vantent déjà de pouvoir nous l'enlever. Ô mon cher Spalatin, prenez garde de ne pas mépriser son âge et sa personne. Cet homme est digne de tout honneur. » Mélenchon se mit aussitôt à expliquer Homère et l'épître de saint Paul à Tite. Il était plein d'ardeur. « Je ferai tous mes efforts, écrivit-il à Spalatin, pour me concilier à Wittenberg la faveur de tous ceux qui aiment les lettres et la vertu. » 4 jours après l'inauguration, Luther écrivait encore à Spalatin « Je vous recommande très particulièrement le très savant et très aimable grec Philippe. Son auditoire est toujours plein. Tous les théologiens, surtout, viennent l'entendre. Il fait que tous, de haut, de bas et de moyen étage, se mettent à apprendre le grec. » Mélenchon savait répondre à cette affection de Luther. Il découvrit bientôt en lui une bonté de caractère, une force d'esprit, un courage, une sagesse qu'il n'avait trouvé jusqu'alors chez aucun homme. Il le vénéra et il l'aima. « S'il est quelqu'un, disait-il, que j'aime avec force et que mon esprit tout entier embrasse, c'est Martin Luther. » Ainsi se rencontrèrent Luther et Mélenchon. Ils furent amis jusqu'à la mort. On ne peut assez admirer la bonté et la sagesse de Dieu qui réunissaient deux hommes si différents et pourtant si nécessaires l'un à l'autre. Ce que Luther avait en chaleur, en élan, en force, Mélenchon l'avait en clarté, en sagesse, en douceur. Luther animait Mélenchon, Mélenchon modérait Luther. Ils étaient comme ces couches de matière électrique, l'une en plus, l'autre en moins, qui se tempèrent mutuellement. Si Mélenchon avait manqué à Luther, peut-être le fleuve se fût-il débordé. Lorsque Luther manqua à Mélenchon, Mélenchon hésita, céda même, là où il n'aurait pas dû céder. Luther fit beaucoup avec puissance. Mélenchon ne fit pas moins, peut-être, en suivant une voie plus lente et plus tranquille. Tous deux étaient droits, ouverts, généreux. Tous deux, pleins d'amour pour la parole de la vie éternelle, la servirent avec une fidélité et un dévouement qui dominèrent toute leur vie. Au reste, l'arrivée de Mélenchon opéra une révolution, non seulement à Wittenberg, mais encore dans toute l'Allemagne et dans tout le monde savant. L'étude qu'il avait faite des classiques grecs et latins et de la philosophie lui avait donné un ordre, une clarté, une précision d'idées qui répandait sur tous les sujets qu'il traitait une nouvelle lumière, une inexprimable beauté. Le doux esprit de l'Évangile fécondait, animait ses méditations et les sciences les plus arides se trouvaient revêtues dans ces expositions d'une grâce infinie qui captivait tous les auditeurs. La stérilité que la scolastique avait répandue sur l'enseignement cessa. Une nouvelle manière d'enseigner et d'étudier commença avec Mélenchon. Grâce à lui, dit un illustre historien allemand, Wittenberg devint l'école de la nation. Il était en effet d'une grande importance qu'un homme qui connaissait à fond le grec enseignât dans cette université où les nouveaux développements de la théologie appelaient maîtres et disciples à étudier dans la langue originale les documents primitifs de la foi chrétienne. Dès lors, Luther se mit avec zèle à ce travail. Le sens de tel ou tel mot grec qu'il avait jusqu'alors ignoré éclaircissait tout à coup ses idées théologiques. Quel soulagement et quelle joie n'éprouva-t-il pas quand il vit, par exemple, que le mot grec « metanoia », qui, selon l'Église latine, désignait une pénitence, une satisfaction exigée par l'Église, une expiation humaine, signifiait en grec une transformation ou une conversion du cœur. Un épais brouillard se dissipa alors tout à coup devant ses yeux. Les deux sens donnés à ce mot suffisent pour caractériser les deux Églises. L'impulsion que Mélenchon donna à Luther pour la traduction de la Bible est l'une des circonstances les plus remarquables de l'amitié de ces deux grands hommes. Déjà en 1517, Luther avait commencé quelques essais de traduction. Il se procurait autant de livres grecs et latins qu'il pouvait acquérir. Maintenant, aidé de son cher Philippe, son travail prit un nouvel essor. Luther obligeait Mélenchon à prendre part à ses recherches. Il le consultait sur les passages difficiles. et cette œuvre, qui devait être l'un des grands travaux du réformateur, avançait plus sûrement et plus vite. Mélenchon, de son côté, apprenait à connaître une théologie nouvelle. La belle et profonde doctrine de la justification par la foi le remplissait d'étonnement et de joie. Mais il recevait le système que professait Luther avec indépendance et en lui en faisant subir la forme particulière de son intelligence, car, quoiqu'il n'eût que 21 ans, il était de ces esprits prématurés qui entrent de bonne heure en une pleine possession de toutes leurs forces et qui sont eux-mêmes dès leurs premiers pas. Bientôt, le zèle des maîtres se communiqua aux disciples. On pensa à réformer la méthode. On supprima, avec l'agrément de l'électeur, certains cours qui n'avaient qu'une importance scolastique. On donna en même temps aux études classiques un nouvel essor. L'école de Wittenberg se transformait et le contraste avec les autres universités devenait toujours plus saillant. Cependant, on se tenait encore dans les limites de l'Église et l'on ne se doutait nullement d'être à la veille d'une grande bataille avec le pape.